9h dans le bureau de Par Jupiter.
Salut Guillaume.
Ouais, c'est ça, ouais. Salut, ouais. Mais punaise, mais vous êtes sérieuse là?
Ah, mais quoi, qu'est-ce qui se passe?
Mais vous invitez un flic.
C'est un ex.
En plus, sérieusement, un ex de Juju et qui est flic. Non mais Charline, t'as perdu une roulette ou quoi là?
Ex-flic, idiot, enfin. Ah. Et tout à fait écrivain, hein, avec des personnages de policiers humanistes.
Ah bah d'accord, c'est le même genre d'oxymore que banquier altruiste, c'est votre truc.
Et comme souvent chez les auteurs polars, il a la fibre sociale à bloc.
Ah, oui, oui,
alors
oui.
Tu redescends tes 40 étages, t'es gentil.
Ouais, son roman, c'est quasiment un manifeste d'écologie radicale.
Bah, c'est ça, ouais. Puis moi, je suis champion du monde de triathlon. Hein, ouais,
en fait, c'est quoi? T'es un gros jaloux.
Mais non, mais pas du tout. Mais non, mais il a fait quoi pour changer le monde, votre flic au grand cœur là?
Et toi, t'as fait quoi depuis le cours Florent?
Bah attends.
Un groupe de rock peut-être?
Non mais non mais ça va là. C'est un groupe engagé, d'accord. Il y a un message quand même.
Oui. Non, mais soyons sérieux, Guillaume. Je crois pas que tu déranges le pouvoir.
Mais attends, mais me dire ça à moi là, après toutes ces années, franchement.
Ouais, bah désolé, Guillaume. Enfin, si on fait le bilan au bout de notre 7e année ensemble, le résultat est pas folichon.
Mais je me bats quand même tous les jours à la cantine pour pas manger de viande.
Et te venger sur les frites. Quel courage.
Ouais, d'accord, mais j'en fais pas un roman.
Bah peut-être que tu devrais, hein. Les livres ça reste et les chroniques ça passe.
Voilà. Mmh. Charline a raison. Tiens, ça s'appelle Impact. Lui, c'est Olivier Norek, tu le lis, on en recause.
Ok, non mais je vais le lire.
Ah, mm-hmm. Eh ben on progresse.
Ouais. 300 pages quand même, ouais. Mm. Non mais je suis admiratif, hein. Non mais il faut pas croire.
Voilà.
300 pages, non mais c'est vrai que bon, pour un flic, hein, quand tu penses qu'il a dû tout taper avec deux doigts, t'es balèze, hein.
Bonjour la France Inter et bienvenue au Conseil Régional de la Poilade. Donc voici la devise, on ira où tu voudras quand tu voudras, aux couleurs du Delta Indien. Voici le sommaire, la sécurité est censée être la préoccupation numéro 1 des Français. Donc les régionales ont tourné autour de la sécurité. Et c'est l'abstention qui est devenue la préoccupation numéro 1 des politiques. Mais demain, ce sera oublié et on sera reparti jusqu'en 2022 pour un tour sur la sécurité. Ça s'annonce vraiment feel good.
Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir.
Victor Noël a 15 ans, il vit en Moselle, il passe beaucoup de temps dans son jardin et sinon, sur son temps libre, il est une des figures du militantisme écologique de sa région. De quoi filer pas mal de culpabilité aux adultes et donc parfois de les rendre agressifs. Auquel cas, pas d'affolement les minots, voilà de quoi répondre.
Vous pouvez pas me taper, j'ai des lunettes.
Le festival du roman noir, dirait-on, Quai du Polar, démarre vendredi. Pourquoi distinguer le polar du reste de la littérature? Fait-il encore mauvais genre en face de la littérature traditionnelle, appelée la blanche? Même si on vous déconseille de demander de la blanche quand vous entrez dans une librairie.
Non, merci, je le prends noir. Comme mes hommes.
Mais dites donc. À mes côtés aujourd'hui, celle qui aime à la fois la blanche et le petit blanc, Juliette Arnoux.
Voilà. Et en l'honneur de notre invité, une équipe de super-héros aux identités doubles, avec d'abord celui qui, dans une vie, jouait avec Cyril Hanouna dans un clip de Soprano, Jeffrey, remets-nous des glaçons. Dans l'autre vie, il est chez Charlene Van Hoenacker et il dérouille à coups de chalumeau les super-vilains.
Ouais, oui. La schizophrénie se passe bien.
Et de quoi vous allez nous parler, monsieur le schizophrène?
C'est les derniers petits clashs avant les vacances.
Yeah. Ensuite, le jour, il trimballe un micro dans les rues pour ensuite prendre en otage l'antenne avec ses idées. La nuit, il se plante devant un micro et des guitares pour prendre en otage avec ses idées. Ouais, c'est pareil. Guillaume Meurice.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la victoire de Valérie Pécresse au régional. J'ai rencontré ce matin son électorat qui l'aime, qui l'admire, qui l'adule.
Elle a agi en chrétienne, en toute connotation religieuse.
Voilà, une chrétienne, mais sans la religion.
Ouais. Et enfin, dans la vraie vie, elle sait se fondre pour mieux dissimuler sa vraie identité d'épouse polygame, à la fois celle de Gustave Flaubert et celle de Chrétien de Troyes, Clara Dupont-Moine.
Oui, bonjour Juliette.
De quoi allez-vous nous parler, Clara?
Du livre de notre invité.
Mais oui, car voici celui qui va mettre l'actu dans le panier à salade. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Olivier Norek.
Yes. France Inter, Charline Van Hoenacker, Juliette Arnoux, Par Jupidémie.
Bienvenue Olivier Norek.
Bonjour.
Bonjour, vous publiez un roman intitulé Impact chez Michel Lafon. Le PDG de Total a été kidnappé. La rançon, c'est plutôt que l'entreprise contribue à un monde plus vivable, en gros. C'est un certain Virgile Solal, le cerveau, un terroriste vert qui use de la violence, mais pour une cause juste. Il a été militaire, notamment il est passé par le delta du Niger, où il a vu les gens tomber comme des mouches, car c'est l'endroit le plus pollué du monde, à cause de Total, justement.
Total, Esso, hein. Shell, ouais, voilà. pas mal d'entreprises.
Et le bébé de Virgile Solal meurt à la naissance à cause des particules fines à Paris. Donc, malgré la violence de son action, une grande partie de la population est acquise à sa cause, ou du moins la comprend. Certains la soutiennent. Et il y a un enquêteur, Nathan, une profileuse, Diane, qui dit « Si la limite déjà floue entre la simple désobéissance civile et les actes violents disparaît, vous n'allez pas tarder à perdre le contrôle de la situation. » Et dans Impact, il commence à y avoir perte de contrôle de cette situation. Alors, Olivier Norek, votre roman, il est très très documenté. C'est une fiction, c'est un polar, il y a une enquête, etc. Avec très, très documenté, basé sur plein de faits réels. Tout est en germe, on le sent bien. Il y a un côté aussi roman d'anticipation. D'anticipation de ce monde où, je vous cite, l'eau et l'air seront en vente et ils auront le prix du sang. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette vue d'anticipation sur ce côté désobéissance civile qui peut partir en actes violents, etc.
J'ai été flic pendant 18 ans dans le 93, je suis capitaine de police encore en disponibilité, et donc mon job c'est d'arrêter des agresseurs, c'est d'arrêter des assassins, c'est d'arrêter des meurtriers, parce que à chaque crime, à chaque délit, il doit y avoir une réponse. Malheureusement, on est en face du serial killer le plus efficace du monde, de toute notre histoire, qui crée 20 millions de morts par an. C'est la pollution et le réchauffement climatique. Et en face de ça, il n'y a que immobilisme et il n'y a que silence et des gouvernements et de la justice. Et donc, en tant que flic, j'étais en face d'une injustice terrible et j'ai décidé donc de transformer cette injustice en roman policier, et d'inventer un monstre, un petit peu à la manière des contes de Perrault ou de Grimm, c'est-à-dire que je crée un monstre avant qu'il arrive. Dans les contes de Perrault ou de Grimm, qui sont en fait des films d'horreur pour les enfants de 8 ans, on parle d'abandon, on parle de perte d'un être cher, on parle de séparation, on parle d'isolement. C'est pas pour faire peur aux gamins et leur donner des nuits blanches, c'est juste parce qu'on sait que normalement dans une vie, on va faire face à ces sujets dramatiques et qu'il faut donner dès le départ les bonnes armes aux gens. Donc en créant un monstre, je suis pas en train de l'appeler, je suis juste en train de dire que notre immobilisme et notre silence va le créer. Et que en mettant en place donc ce monstre, je me dis que le lecteur va pouvoir se forger les armes nécessaires à pouvoir l'affronter.
Et créer un peu un choc des consciences, mais d'une autre manière que ce Virgile Solal. Juliette.
Oui, alors en politique, on a un mal de chien à se débarrasser d'un mythe qui existe depuis toujours, qui s'appelle l'homme providentiel. Et là, vous nous refourguez le vengeur providentiel. Pour un truc qui, c'est vrai, nous occupe tous plus ou moins. L'angoisse avérée pour ce qui est en train d'arriver à notre planète. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est la seule solution que vous ayez trouvée?
Est-ce que c'est bien de faire ça? En fait, est-ce que c'est bien de créer quelqu'un qui va avoir recours à la violence pour ça?
Non, c'est pas le problème du recours à la violence. Dit-elle.
Visiblement,
c'est l'histoire du vengeur. C'est qui pour réveiller les gens, pour que les gens tout à coup décident en masse et en nombre de effectivement pas trouver ça normal, par exemple la politique de Total. Il faut que ce soit un homme, ça passe par la figure d'un homme, qui est très charismatique, vous le décrivez longuement dans le livre.
C'est plus facile d'avoir un homme ou une femme, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait il y a une identification du lecteur. Donc c'est vrai que quand on parle de réchauffement climatique, de pollution, il y a une sorte d'anonymat, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et c'est la vraie question. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire pour la violence dans les cités? Qu'est-ce que je peux faire pour le réchauffement climatique? Qu'est-ce que je peux faire pour tel ou tel sujet qui nous paraissent globaux et donc qui nous empêchent en fait d'une action personnelle? Mais si je mets en place moi une personne qui va agir, alors je donne au lecteur le sentiment que lui aussi il peut agir. Et que si on parle de grandes entreprises, mais qu'on ne voit pas exactement ce que ça fait chez nous, dans notre vie quotidienne, alors il n'y a pas d'impact. C'est le concept de la peine au kilomètre ou de la peur au kilomètre. Aujourd'hui, il y a 20 millions de morts par an. Mais ce n'est pas en Europe. C'est en Afrique, c'est en Asie, c'est en Inde. Et ça se passe ailleurs et on a l'impression qu'ils ne sont pas nos frères, pas nos équivalents, presque pas humains en fin de compte. Ce n'est pas grave, ça se passe en Afrique. Ce n'est pas grave, le delta du Niger, c'est le premier endroit sur le monde où la vie est impossible. Mais ce n'est pas grave, ça se passe en Afrique. Comme si ce n'était pas des gens. Les journalistes appellent ça la peine au kilomètre et la responsabilité au kilomètre. Et cet écart qu'on peut avoir sur ce qui va nous arriver dans 20 ans, en fin de compte, j'essaie de raccourcir la distance pour prouver que ce qui arrive dans ces autres continents va nous arriver d'ici une dizaine d'années, il va nous arriver la même chose. Par exemple, on parle de... prenons un sujet global et mettons-le à notre échelle. C'est toujours plus facile. Le sujet global, c'est la montée des eaux. Ouais, la montée des eaux, ok, d'accord, ça va impacter les villages côtiers d'Afrique. C'est pas vraiment mon problème, en fin de compte. C'est en Afrique. On pourrait dire ça, ce sera affreux. Sauf que d'ici 15 ou 20 ans, les réfugiés climatiques vont arriver aux portes de l'Europe. Et ils seront pas 10 000 comme dans la jungle de Calais. Ça a été assez simple, hein, dans la jungle de Calais, ils étaient 10 000, on a mis des flics, on a mis des chiens, on a mis de la lacrymo et ça s'est à peu près passé.
Vous en avez fait un roman d'ailleurs, Entre deux mondes.
C'est vrai, ouais. Oui. Là, on parle de 200 à 500 millions de réfugiés climatiques qui vont arriver aux portes de l'Europe. Et c'est pas dans 50 ans, c'est dans 20 ans. C'est ouais. Des choses qui vont nous arriver. Donc en fait, ce que je prends, c'est je prends des sujets globaux et j'essaye de les mettre à notre échelle pour montrer qu'en fin de compte, ça nous concerne. Oui, dans 30 ans, il y aura plus un poisson comestible dans l'océan. Ça nous concerne. Oui, vos enfants, vos amis, vos frères, vos cousins, leurs enfants, ils vont avoir 10 à 15 ans d'espérance de vie en moins s'ils vivent dans des villes à cause de la pollution. Donc voilà, l'important, et je suis désolé de plomber un peu l'ambiance,
non,
on était vachement sur la rigolade dès le début. J'espère bien, la tâche sera compliquée. Mais voilà, j'essaie de prendre des sujets qui sont des sujets généraux, hein, on peut dire des sujets holistiques, enfin, qui prennent la globalité des choses. Et j'essaye de montrer que ça va nous concerner. Par exemple, dans mon roman, il y a des nouvelles du monde. Ça sert à rien de parler de réchauffement climatique si à un moment donné, je vous raconte pas l'histoire d'une famille en Inde qui, à cause de la crue d'une rivière, va libérer des dizaines de milliers de crocodiles dans les villages et qui vont se retrouver assis sur leur frigo à voir des crocodiles passer dans leur cuisine et à se demander, bon, si on veut s'échapper de cette cuisine, il va falloir qu'on sacrifie quelqu'un. Et ils hésitent entre le chat et le chien. Et évidemment, ils balancent le chat parce que les chats ne servent à rien.
Et ce sont des chapitres qui retirent ça tout de suite. Ce sont des chapitres qui ponctuent d'ailleurs l'intrigue et l'histoire.
Oui.
Et donc il y a des fois effectivement une forme de manifeste écolo-radical, comme on dit. Il y a une phrase qui va devenir notre mantra. L'écologie sans la révolution, c'est du jardinage.
Ouais, c'est exactement ça.
Voilà. Et le tout en fiction. Mais on va y revenir évidemment aussi sur l'aspect littéraire de ce roman. Olivier Norek qui publie Impact chez Michel Lafon. On y reviendra tout à l'heure bien sûr avec Clara Dupont-Monod. Sous l'angle un petit peu de quoi, de l'essai philosophique.
On ne déflore pas.
On ne déflore pas. On donne envie.
Oui, oui, oui. Hein? C'est la réflexion que ça
donner envie que les gens restent un peu.
Oh ben, il y a Meurice avant, donc ils vont rester.
There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here. That the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing. But it don't it's coming or going. There is fashion, there is fat. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before. Repeating.
Propellerheads chante History Repeating sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Notre invité, c'est l'auteur Olivier Norek qui publie un roman intitulé Impact. On va y revenir bien sûr car ce sujet nous intéresse hautement dans cette émission. Juliette, pour entourer notre invité.
Eh bien, une littéraire, Clara Dupont-Mono, un humoriste, Walidia et
un être hybride.
Un être hybride.
Qui fait un journal.
Quand j'entends le mot, je lance comme si... Forcément, je m'étouffe.
Le journal de presque 17h17.
C'est extraordinaire, quand même. On ne se bidonne pas. Mais c'est quand même une blague qui donne à penser.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera de la soirée victorieuse pour la gauche et les Républicains.
Oh là 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 là, on vit une belle année 2008, hein, quand même.
On parlera donc des résultats dans le nord de la France.
Vous avez entendu parler du film Bienvenue chez les Ch'tis ? Je pense que ça ne marchera pas, mais ça vient de sortir.
Et enfin, on parlera aussi de musique.
Oh, j'adore. Vous avez entendu le dernier album de Mano ?
Bon, les jingles.
Vous aimez pas Mano ?
Beaucoup, ouais.
La tribu de Dana, c'était fort.
Oui, allez, revenons en 2021.
D'accord, allez, on commence donc par la politique.
Oui, hier soir avait lieu le second tour des élections régionales et l'abstention a encore battu des records.
Mais bien sûr, mais c'est la faute au beau temps.
Oui, il pleuvait sur une bonne partie du pays hier.
Oui, pardon, oui, c'est de la faute au mauvais temps.
Qui vous prend là ?
Ah, désolé, j'ai confondu mes fiches avec les éléments de langage de La République en Marche.
Ah d'accord, ok.
Excusez-moi.
Donc régional toujours, oui. Olivier Faure est revenu sur les unions de gauche conduites par les écologistes et il évoque un plafond vert.
Ouais, j'aurais plutôt fait blanc, moi, le plafond, parce que ça agrandit la pièce.
Hein ? Attendez, il parle pas d'un vrai plafond, hein, un plafond d'Europe Écologie Les Verts qu'on peut pas dépasser, enfin, un plafond de verre.
Attendez, un plafond de verre vert ?
Ouais.
Mais attends, je comprends, en vert ou vert, parce que c'est pas clair. Puis pourquoi demander à Olivier Faure, c'est qui ce mec-là ? Il est architecte ?
Non mais Olivier Faure, le patron du PS ?
Quoi ? Mais je comprends rien ce que vous racontez.
Ok, bon, on enchaîne. Bah régional oui, toujours. Pour Gérard Collomb, les élections sont clairement un échec pour La République En Marche.
Waouh ! L'analyse de ma boule, GG. On a rarement vu ça. Je crois qu'il a ajouté, dis donc, c'est pénible cette histoire de virus aussi. Hein.
Ouais, et puis il fait un petit peu frisqué pour un mois de juin.
Comment s'habiller,
Allez, sur CNews, Robert Ménard est revenu sur les régionales en déclarant, je cite, qu'il fallait s'interroger sur la crédibilité des gens que présente le RN. Ouais,
Robert Ménard qui s'interroge sur la crédibilité. Voilà, c'est comme Clara Dupont-Mono qui s'interroge sur la générosité.
Et les élections départementales, parce qu'elles ont eu lieu
aussi.
Hein, oui. Gérald Darmanin a été largement élu dans son canton de Tourcoing.
Ah bah voilà, au Rassemblement National, ils ont passé leur soirée à faire la gueule, mais ils ont quand même une victoire.
Hein, mais Darmanin, c'est pas le Rassemblement National, enfin.
Vous êtes sûr de ça ?
Bah oui, justement, il trouvait Le Pen trop molle, alors.
Mais non, quand il disait trop molle, c'est quand il était agent immobilier et que les filles qui cherchaient un logement, elles n'étaient pas assez...
Allez, on enchaîne avec cette nouvelle tragique. Les pianos sont de retour dans les gares.
Ah oui, une pensée pour le personnel de la SNCF qui va devoir subir des amateurs qui connaissent rien à la musique, mais qui veulent juste pécho.
Attendez, Guillaume, vous parlez toujours des pianos dans les gares ou de votre spectacle musical avec les disruptifs ?
Ok, on enchaîne. Allez, on enchaîne.
Allez, selon des scientifiques, le Sélacan serait la seule créature vivante qui existe depuis 180 millions d'années d'évolution.
Ah, non, il y a aussi le Jean-Yves Le Drian.
Non, mais j'ai dit créature vivante. Hein.
Ah oui, vivante, autant pour moi. Non, ça marche pas.
Attention, soyez attentifs quand même. Et enfin, à Mulhouse, 4 scouts ont construit la plus haute tour de Kapla au monde. C'est un jeu de construction en bois.
Il n'y a pas à dire. Depuis que l'Église contrôle plus les prêtres pédophiles, ça laisse plus de temps aux enfants pour s'amuser. On est sur un win-win, en fait. Hein, très exactement.
Merci Guillaume Meurice pour ce journal, parce que nous, vous avez compris, c'est l'information. Et aussi chez Olivier Norek, c'est le factuel. Un petit peu plus solide sans doute quand même quand on vous lit. Et d'où ce premier sujet avec vous Olivier Norek. C'était vraiment une très très bonne idée d'axer la campagne des régionales sur la sécurité. Résultat, les gens ont eu peur de sortir de chez eux pour aller voter, dis donc. Donc n'hésitons pas à remettre ça pour les présidentielles. Hein, voilà. Et puis dans le fond, le plus simple, pourquoi ne pas élire directement un keuf à l'Élysée dans ce cas-là ?
Dans nos villes citadines... La violence est malheureusement un phénomène qui ne cesse de recruter. En effet, l'échec scolaire et la rupture des liens familiaux font pousser le terreau de la délinquance. Que faire dans une situation telle que celle-ci ? Primo, garder son sang calme. Secondo, appeler les forces de l'ordre. Ça tombe bien, je suis là. Et enfin, tierso, entamer un dialogue pacificatoire. Allez les enfants, c'est pas bientôt fini ? On n'a pas des devoirs à faire ? Allez, on rentre à la maison dans le calme. Hein ? En résumé, la meilleure chose... Non ! Je vous somme de rendre cette caméra !
Faux Contact, c'était un programme court de la télévision belge avec le comédien Manu Taureau. Alors, quand les Français sont interrogés sur leurs priorités dans les sondages, ils répondent en numéro un la sécurité. Là-dessus, qu'est-ce qu'ils font les politiques? Ils font « Oh, dites donc, on va parler de ça tout le temps ». Et les Français disent la sécurité avant l'environnement et avant la santé. Alors quand on vous lit, Olivier Norek, et qu'on sait que vous avez été flic et que vous militez dans vos écrits pour l'environnement et la santé, quel regard vous avez porté sur cette bonne baignade dans la sécurité pour les régionales?
Bah, que ce soit les régionales, les présidentielles, c'est un marronnier. C'est assez facile, en fait, de s'attaquer à un souci qu'on ne pourra pas régler. L'insécurité, la violence, c'est, moi, je suis de toute façon persuadé qu'on n'est pas bon. Et qu'après on devient mauvais. Je pense qu'on est comme un animal. C'est-à-dire qu'on est de toute façon avec quelque chose de mal. C'est-à-dire que d'abord, c'est nous d'abord, notre confort, nos intérêts, et qu'on est prêt à se battre pour ça. Et que le concept de famille et le concept de société nous apprennent à devenir social. Et donc, l'insécurité, elle y sera tout le temps. Et c'est assez facile. On est dans une société de fédivérisation. C'est-à-dire que le moindre acte de violence est mis comme une sorte de généralité. Ce qui fait qu'on c'est un peu facile de faire peur aux gens. Et en faisant peur aux gens, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on les empêche quasiment de réfléchir. Donc si on met toute une recherche politique autour de l'insécurité, on fait peur aux gens, et une fois qu'on a peur, eh bien on ne voit pas ce qu'il y a après. C'est ce qu'on appelle chez les policiers l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est quand on est dans une situation de stress, d'inquiétude ou de frayeur ou de terreur, en fait notre vision, notre cerveau va se rétrécir sur un tunnel. Je peux vous raconter
un tunnel de LBD, par exemple.
C'était un peu facile, mais je la prends quand même.
Va, je vais dire, moi, celle-là.
Allez-y, vous allez enchaîner.
Par exemple, je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a découvert que sa femme le trompait avec le voisin. Alors, il décide d'aller tuer le voisin. Et donc, il va l'étrangler. Et en l'étranglant, juste devant lui, il y a son portefeuille qui va tomber et s'ouvrir sur sa pièce d'identité. Il continue à l'étrangler. Il fait trois pas en arrière, il regarde la pièce en se disant « je vais bien vérifier qu'il n'y a aucun souci », mais l'effet tunnel fait qu'en fait il est totalement focalisé sur ce qu'il vient de faire et il voit pas la pièce d'identité qui est ouverte sur son torse. À ce moment-là, évidemment, on m'appelle, c'est une affaire de police. Les policiers sur place sont un peu morts de rire, je leur demande pourquoi. C'est tout simplement parce que l'assassin a laissé sur le torse de sa victime sa pièce d'identité, pile poil, et c'était assez simple puisque j'ai fait 3 mètres de côté, j'ai sonné à la porte et l'interpellation était faite. C'est l'effet tunnel.
C'est fou, les brefs de Vizorek, c'est vous, c'est dingue. Oui, je comprends.
Et donc, en fait, rapporter à chaque fois la peur, l'insécurité, comme sorte de marronnier, évidemment, ça va focaliser tous les intérêts. Sauf que, on va y répondre par quoi? Comme à chaque fois, on va y répondre par un Beauvau, par des états généraux, par des Grenelles, par des commissions, par des débats, par des numéros verts, en fait, par des conversations qui ne mèneront à rien. Parce que, on va utiliser ça pour les prochaines présidentielles et pour les prochaines régionales, et ça va continuer indéfiniment. Les solutions, les lois, elles existent. Le seul problème, c'est qu'on n'a juste pas le financement pour les faire. Les flics, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Je suis flic, mais je suis pas totalement pro-flic. Quand il y en a qui dérapent ou quand il y a des situations qui sont inadmissibles, je suis le premier à dire qu'il faut punir sévèrement. Parce qu'on n'est pas des citoyens, on est des super citoyens.
Et on lit entre les lignes, d'ailleurs, dans votre roman, votre passé de flic, d'ailleurs, pour ceux qui liront bien entre les lignes, une fois qu'on le sait. Olivier Norek, on va passer avant de continuer la conversation, à Walidia.
Ah, mes petits cristiano-droitistes, judéo-frustrés, bouddhistes, agressifs, raélo-compatibles, ça roule. Ouais, vous avez la bonne nouvelle de la semaine, l'extrême droite n'existe plus en France. Ouais, terminé, pas une région, rien. Pascal Praud a dit qu'il n'était pas d'extrême droite. Marine Le Pen a dit qu'elle n'était pas d'extrême droite non plus. Même Zemmour, il a dit que les nazis étaient de gauche. Heureusement, ceci dit, t'imagines si les nazis ils avaient été d'extrême droite. Ils auraient fait quoi? Je veux dire, ils auraient mangé les juifs et les tziganes dans des uniformes en peau d'homosexuel. Comment ils auraient fait? Dire, si les nazis étaient de gauche, la bataille de Stalingrad, c'était quoi? Les primaires socialistes, on s'en serait pas sorti. Ouais, c'est au moment où l'extrême droite disparaît que le CSA se rend compte qu'elle existe, hein, avec CNews qui favoriserait les temps de parole du RN. Le CSA, ça doit faire 5 ans qu'ils ont pas allumé la télé, je pense. Ils switchent entre Netflix et Pornhub, hein, comme tout le monde. Et un jour, ils sont tombés sur la 16, ça leur a fait un choc. Ils ont regardé le staff, c'est Jean Messia, Jean-Claude Dacier, Elisabeth Lévy, Jean Messia encore, Zemmour, Dornelas, Jean Messia, Gonadel, Rioufol, Jean Messia. Oh, c'est quoi ce bordel? Mais tout chapeauté par l'ancien stagiaire photocopie de Téléfoot, hein, Pascal Praud. Pascal Praud, c'est quelqu'un. C'est vrai. Pascal Praud, quand tu lui demandes ce qu'il fait dans la vie, il te répond journaliste, premier degré, sans se détacher une crotte de nez. Ouais, je parle de toi, Pascal, parce que je suis vexé. Il a clashé la moitié de France Inter et moi, tu me calcules pas. Pascal. Ah, toujours les mêmes. Lâche un peu à sa Traoré. Tu sais, pense à moi. T'es amoureux d'elle ou quoi? Tu l'as vu un Louboutin? Ça y est, t'en peux plus. Rentre-moi dedans, Pascal. Il me faut du buzz. Là, j'ai ma tournée qui démarre en septembre. Pense à moi, parce que l'humour politique, ça me rapporte rien. Je n'ai pas une seule polémique depuis le début de la saison. Même Darmanin, que j'ai harcelé une chronique sur deux, il a rien dit, même pas un texto. Que dalle. Faut que j'arrête avec lui. Je te jure. En plus, dernièrement, il était au chevet des victimes d'inondations dans les Yvelines. Ce serait indécent de l'attaquer là-dessus. En même temps, lui, dès que ça mouille et qu'il y a des logements à fournir, il débarque en peignoir. Ah, désolé, c'est plus fort que moi. J'en peux plus. Il y a des élus là, qui nous vendent du principe républicain H24, alors qu'ils n'en ont pas un gramme en boutique. Heureusement que les régionales, c'est terminé. Monsieur. Deux semaines à nous bassiner avec ça, alors que tout le monde s'en tartine les bourses avec du miel d'acacia. Ben, les jeunes s'en foutent particulièrement. Tu me diras, les jeunes, le jeudi, ils galèrent à trouver un taf. Le vendredi, ils font la queue pour bouffer. Le samedi, ils font la fête et ils se font marcher dessus par des policiers. Le dimanche, ils ont plus le cardio pour aller voter, hein, franchement. Non, surtout que quand tout ce que t'as fait pour eux, c'est une vidéo avec McFly et Carlito, c'est pas la peine de les attendre dans les isoloirs. En plus, j'ai vu les affiches électorales. Franchement, c'est pas comme ça que tu vas séduire les millennials. Tu sais, il suffisait d'écrire en gros transport gratuit, logement pas cher, voter machin, et c'était gagné. Mais non, ils se sont dit, on préfère mettre un gros portrait mal détouré de Christiane Dupont-Noisette ou Jean-Philippe Bourleloup, hein, cravate de travers, joue rouge, front plein de transpi, bite gonflée, à deux doigts de lâcher un rototo qui sent la mimolette. On sait pas s'ils sont en campagne ou s'ils sortent de table, les mecs. Qu'est-ce que tu veux faire? Les jeunes sont ultra concernés par plein de sujets de société. On l'a vu samedi pour la marche des fiertés. D'ailleurs, j'en profite pour m'adresser à la communauté LGBTQ+. Je vous soutiens de tout cœur dans votre lutte, mais il faut que quelqu'un vous le dise franchement. Dans LGBTQ+, tout ce qui se passe après le plus, on comprend pas. C'est trop technique. Après le plus, il y a autant de lettres que de décimales de pi. Vraiment, on était même ici, c'est censé être gay friendly. Il y a des problématiques que vous connaissez pas. Ça vous dit l'intersexisme, c'est pas? Non.
Bah oui.
La transmisogynie, tu connais? Moins. Le diacicentrisme, tu connais? Eh ben non. Voilà.
Là, on est
ça
perdu.
Percute pas. Voilà. T'es même de toute façon, Vizorek, il est pas là, mais lui, il a encore à demander. C'est lequel qui fait la femme? Enfin, tu vois. On n'est pas rendu. Ouais, petite pique sur l'équipe. Hein, qu'est-ce qu'il y a? On peut plus rien dire. Hein. On dérange la bien-pensance. C'est peut-être vous que je dois clasher finalement si je veux que ça... Hein, Vandenacker, Vizorek, là, alias l'ingérence belge. Ça vient cracher son venin ici, après ça va se planquer à Bruxelles comme des évadés fiscaux. Et Muris, là, avec son micro-trottoir surpayé, à se faire poustillonner dessus par des gens qui se tripotent en regardant les docus sur Pétain. Et les autres... Bon, je les cache pas parce que personne les connaît. Mais vous inquiétez pas, il y a moi le pire de tous. Hein. Monsieur Walidia qui joue au grand pamphlétaire alors que je fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Hein. La guerre c'est mal, le racisme c'est pas bien, la corruption c'est caca, manger les vieux ça se fait pas. Ah bah merci Wally, on savait pas, heureusement que t'es là, hein, sinon j'ai failli bouffer mamie. Ouais, moi je suis un rebelle d'occasion avec des chroniques aussi subversives qu'un discours de Miss France, mais je suis très heureux d'avoir croisé la route de Par Jupiter cette année et de revenir à la rentrée. C'est bon, Charline, c'est officiel?
Ah ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, si, si.
Je serai toujours moins bien payé que le mec qui annonce les embouteillages sur Radio Trafic.
Oui, là, oui.
Ok, rendez-vous en septembre.
Bonne nouvelle. On retrouve Walidia en septembre. Et vendredi, pour la dernière émission, bien sûr, vous serez là. Et puis en tournée, bien sûr. Allez partout. Voir Walidia sur scène.
Venez,
bien sûr.
C'est pas cher.
Oh, les amis, on est en compagnie d'Olivier Norek. Il propose un roman qui s'intitule « Impact », publié chez Michel Lafon. Autant vous dire qu'on est à fond, ça c'est vrai, sur ce roman. On vous en reparle tout à l'heure.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Arrivez tour à temps, et donc votre tour pour manger. Se régaler, amis vautours, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer. We'll be right back. féliciter. Féliciter tout ce qu'on peut se souhaiter. Sagacité, nos cerveaux sont armés. Nos cerveaux. Défi simplement relevé, manche retroussée, tout pour y arriver. La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Et ce gâteau fait pour être partagé.
Mais bien sûr, on vous croit, Jojoa, Nicolas Giraud, Fixie, sur France Inter, en compagnie de Olivier Norek jusqu'à 18h et de Guillaume Meurice.
Oui, chronique en forme de remerciement aujourd'hui pour notre sauveuse, Valérie Pécresse, la Solzhenitsyne des brushings, qui nous a sauvé donc des chars russes sur les Champs-Élysées et des concerts de Kali tous les soirs sous la Tour Eiffel. Entre nous, je ne sais pas ce qui est le pire d'ailleurs des deux. Valou a donc cartonné la gauche en région Île-de-France et elle garde sa place de présidente, mais on a flippé. Hein. Ah, on n'était pas bien, on n'était pas à l'abri d'une remontada de Bayou Boulevard Autain, les To Be Free version lutte des classes et quinoa. Valoche avait même prévenu en parlant carrément d'ennemis de la République. Hein. Valou, elle n'a pas sa langue dans sa poche, hein, puisque dans sa poche, il y a déjà un Chanel numéro 5 et un EP de Maître Gims, hein, c'est son gars sûr. Alors, je suis allé ce matin dans les rues de Paris pour fêter cette victoire historique contre ces forces obscures de bouffeurs de merguez avec l'électorat à Valoche.
Je suis très contente, je suis pour elle.
Qu'est-ce qui vous plaît
elle fait pas mal, je trouve qu'elle est dynamique, je suis contente.
Qu'est-ce qu'elle a fait là, dans son dernier mandat qui vous a plu?
Là, je ne suis pas la politique, d'accord, vraiment. Ouais. Moi, je suis pour cette femme parce que je la trouve dynamique.
Elle est tonique.
Oui.
Ouais, voilà. C'est vrai qu'elle a eu le prix Véronique et Davina en 92. Hein. Valou, c'est quand même la garantie d'une région abdo-fessier compatible. C'est le dynamisme, le tonus et le ménage. Hein, parce que je vous rappelle qu'elle est l'auteur de la phrase « Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage ». Voilà, qui lui a valu d'ailleurs de rater le prix Olympe de Gouges. De pas grand-chose, on peut pas tout avoir non plus. En tout cas, on aime Valou, on lui souhaite le meilleur.
J'espère que oui, qu'elle continuera ce qu'elle avait commencé.
Qu'est-ce qu'elle avait commencé exactement?
Je crois qu'elle s'occupe très bien de la région.
Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement?
Je crois qu'elle est toujours présente et qu'elle, comment dirais-je, elle s'occupe des plus petits.
Ah oui?
Oui.
Vous voulez dire qu'elle est de gauche?
Ah non.
Non, quand même pas, mais c'est vrai qu'elle s'occupe toujours des plus petits, que ce soit le plus petit actionnaire majoritaire, hein, un petit milliardaire, elle le protège, voilà, les petits Bernard Arnault, les petits François Pinault. Elle est toujours là, Valou. Elle a toujours ses paroles pour l'homme offensé. Alors, ceci dit, bien sûr, elle n'est pas de gauche, mais écoutez quand même ce qui suit.
Je suis plutôt de gauche.
Ok.
J'ai voté à droite.
Ah bon?
Oui.
On peut dire que vous faites partie de la gauche avec Pécresse.
Non, je suis la gauche caviar.
Ah, la gauche caviar avec Pécresse. Ça, c'est encore plus de gueule, on ne connaissait pas. Et c'est vrai que depuis que Jacques Lang nous a quittés... attendez.
Non,
il n'est pas mort, il n'est pas mort, là, je confonds avec le Parti Socialiste. Que Jacques Lang a tué d'ailleurs. Non, il n'a pas d'alibi en tout cas. Bon, je ne sais pas, ça fera. Voilà, notez-le pour votre prochain bouquin, Olivier. C'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. Alors, continuons avec ce même électeur de Pécresse et son choix du premier tour.
Je voulais pas voter. Puis je me suis dit, il y a des millions de gens dans le monde qui meurent pour avoir le droit de voter. Et donc, j'ai voté pour Lutte Ouvrière.
Ah, vous avez voté Lutte Ouvrière?
Ouais, c'est encore mieux que communiste. Hein.
Donc, vous avez voté Lutte Ouvrière au premier tour et Pécresse au deuxième tour. Ouais.
Ah, bah oui. Pendant des années, j'ai voté vert.
Bon, je sais pas quoi vous dire. Là, on est au-delà du cheminement intellectuel. C'est une aventure anthropologique qui nous propose. Mais bon, je vous rappelle qu'on vit dans un monde où Jean-Paul Huchon a appelé à voter Pécresse. Jean-Paul Huchon. On vit dans un monde où on demande encore son avis à Jean-Paul Huchon, d'ailleurs. Voilà, donc tout est possible. On sait plus qui c'est. Hein, les chapelles politiques ont explosé et ça tombe bien.
Le communautarisme, c'est une très mauvaise chose. J'ai vécu au Liban, on en voit les résultats.
Est-ce qu'elle en fait pas avec les catholiques, Pécresse?
Non, pas trop.
Non?
Pas trop.
Parce qu'on l'a vu pas mal à la manif pour tous.
Oui. Elle a soutenu la manif.
Oui, beaucoup, oui.
Bah, c'est une imbécile.
Ah, bah oui, mais vous avez voté pour elle.
Voilà, non, mais bon, on n'avait pas tellement le choix. Hein.
Bon, bah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Après tout, il fallait bien choisir. Et dans la ligne droite de Lutte Ouvrière et des Verts, il y a Pécresse. Ah, voilà, dans la ligne droite, quand même. Hein. Voilà, bien à droite. Continuons avec un électeur de Pécresse. Un électeur, cette fois-ci, sceptique.
Elle est jolie, c'est déjà bien.
Elle est jolie, ouais.
C'est tout ce que pourra faire, mais enfin bon. Pour arrêter tout ce qui est l'islam,
qui nous envahit doucement.
Alors là, ça n'a pas de rapport avec les régionales.
Si, c'est un rapport, parce que Pécresse, comme beaucoup d'autres, envisage rien contre l'immigration.
Hop, 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 on a un combo. On a le combo islam-immigration, il manquait plus que couscous et terroriste, et j'avais le bingo. J'avais le tiercé dans l'ordre, merde. Bon, allez, il est temps de conclure avec ce monsieur et son espoir, quand même.
J'avais un espoir, moi, que Philippe, l'ancien Premier ministre,
ah, Edouard Philippe, ouais,
se présente avec des idées un petit peu plus à droite, si vous voulez.
Ouais.
Un peu comme Morano, si vous voulez.
Oh, ben moi, ça, je veux bien tout ce que vous voulez. À ce moment-là, moi, Morano 2022, mais avec grand plaisir, avec Valou, pourquoi pas, Première ministre. On serait pas bien, là, hein, détendu du mocassin à gland.
Et on voilà. Votera quand on aura envie de voter.
Bien sûr.
À 17h43, merci Guillaume Meurice, vous écoutez France Inter. Juliette Arnaud, voici un autre thème qui tient à cœur à notre invité Olivier Norek.
Victor Noël a beau être un militant reconnu écologiste de sa région à l'âge de 15 ans, il reste une petite personne modeste qui parle, et je le cite, il parle de son petit combat à une petite échelle. Quelle humilité pour un combat homérique, celui contre la 6e extinction de masse. Comme son aîné Greta Thunberg, comme d'autres enfants sensibles et sensibilisés, Victor Noël s'inquiète et s'active. Pendant ce temps, ses parents...
Mon fils Martin est surdoué. Il a 14 ans. Il doit rentrer en terminale l'année prochaine. Il a déjà monté un bloc de probabilité sur les questions du bac. Il a réponse à tout, il sait tout sur tout. Il suffit qu'il étudie un sujet et hop, il prépare sa thèse. Valeurs et faiblesses de la Constitution européenne. Vous savez quoi? C'est invivable. En tant que parent, on est quand même censé lui transmettre quelque chose, non? Un savoir, des connaissances, là, on est des nuls.
C'était la web-série produite par France 4, Psychomaton. C'est votre sujet, Olivier, oui. Norek, et on comprend en lisant votre livre pourquoi ce petit jeune homme a retenu votre attention. Sauf que Victor, lui, à la différence de Virgile, n'est pas radicalisé. Hein. Il pourrait plus ressembler peut-être à Mélanie, la fille adolescente de
tout
votre enquêteur, qui est à la fois passionnée par les idées écologiques et par l'usage des réseaux sociaux.
Oui, moi, Victor Noël, j'ai vraiment craqué sur ce gamin. Vous voyez, je peux pas dire autrement. Il a 16 ans. C'est la relève. C'est un enfant qui a déjà conscience que nous faisons face à la 6e extinction massive de la biodiversité. On n'a pas la même enfance, hein. C'est-à-dire que lui, son enfance, il parle de dérèglement climatique, de surexploitation des ressources, de destruction des habitats, dont le nôtre, et de pollution, de réchauffement climatique. C'est des scénarios catastrophes qui sont loin d'être des fantasmes de collapsologues. Et le tout est dit par une voix d'enfant, posée et intelligente, qui appelle à une humilité collective face à la nature. Bon, bah, ça nous rend aussi très, très, très humbles. Quand on lui demande s'il est en colère, il répond d'abord que son sentiment premier, c'est l'émerveillement face à la nature, qu'ensuite, c'est l'espoir, et qu'il espère que la colère n'arrivera pas. Et pour moi, ce gamin, c'est un thermomètre. Quand lui, il y croira plus, quand lui, il aura décidé d'arrêter d'agir, eh ben, je pense qu'on pourra tous s'acheter des bunkers en Nouvelle-Zélande.
Il emploie des expressions, ce môme, qui m'ont beaucoup touchée. Il dit qu'il en a marre que les gens parlent dans les jardins et des mauvaises herbes et des espèces nuisibles. Et ça m'a fait marrer parce que c'est une sémantique d'homme politique aussi que je trouve extrêmement gênante pour parler de certaines personnes. En banlieue notamment, là où vous avez travaillé, là où vous avez été policier, ça vous évoque quelque chose? Ces termes, mauvaises herbes, espèces nuisibles, il dit qu'il n'y a pas d'espèces nuisibles.
Ben non, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver, si vous voulez faire, si on veut continuer la comparaison avec l'être humain, il faudrait donc qu'on décide qu'une partie de la population est une partie nuisible. J'irai absolument pas sur ce trajet. Il est assez amusant, ses parents ont acheté une maison, il a un jardin, ses parents faisaient le jardin, donc ils passaient la tondeuse, et un jour il leur a dit « Non mais maintenant on va arrêter la tondeuse, on va arrêter tout ça, on va laisser la nature comme elle est ». Ce qui fait qu'il a forcé ses parents à avoir une sorte de jungle devant la maison, et ses parents ne peuvent plus rien faire, donc il a littéralement flingué le bien immobilier familial. Et il est parfaitement conscient, hein, que son discours il fait peur, parce que ça demande un changement, et il utilise ce mot, et j'aime beaucoup, un changement holistique, c'est-à-dire un changement global. Pour penser demain, il va falloir qu'il y ait un changement physique, mental, émotionnel, familial, social, culturel, pourquoi pas spirituel, voire religieux. Et si on en revient à la Bible, c'est assez amusant parce que la Bible dit « soyez féconds ». Multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Ben non, stop. c'est terminé. C'est fini cette dominance. Il nous appelle à penser notre quotidien différemment. Et évidemment, personne ne veut sacrifier de son petit confort pour ça.
Et alors, est-ce qu'il y a un ouvrage ? Je vois que vous avez apporté un livre, Olivier Norek. Vous pouvez peut-être citer les références ?
Tout à fait. Alors, son livre s'appelle « Je rêve d'un monde, plaidoyer d'un adolescent pour la biodiversité » par Victor Noël. Victor comme Victor, Noël comme la jolie fête.
Ah ben voilà, merci Olivier et Juliette. Clara Dupont-Monod, revenons-en donc au roman de notre invité Olivier Norek.
Et oui, Olivier Norek, parce que vous n'avez pas écrit un roman policier en réalité. Vous avez écrit un essai de philosophie planqué sous un roman policier.
J'en étais sûr.
Mais oui, votre livre qui s'appelle donc Impact raconte, je le rappelle, une prise d'otage. Bon, est pris en otage le PDG de Total, entre autres, par un homme assez calme, sans effusion, Virgile, qui demande que le budget de Total soit donc réaffecté à la transition écologique. Faute de quoi, il fera disparaître le PDG de Total. Donc c'est plus pollueur-payeur, c'est pollueur-tuer. Bon, c'est moins lucratif, mais plus efficace. Or, cette prise d'otage ne suscite pas l'indignation. Et Virgile est même soutenu par la planète entière, qui a répondu oui à la question philosophique suivante. Si la suppression d'un homme entraîne la survie de millions d'autres, alors faut-il accepter la suppression d'un homme ? Votre policier Nathan le formule autrement, je cite, « Défendrait-il des inconscients qui nous mènent à l'extinction ? Ou défendrait-il un assassin prêt à tuer pour protéger les autres ?» Alors l'épreuve du bac philo est passée, en plus il n'y a pas longtemps, mais cette vertigineuse question, elle traverse de nombreux textes. Après vous, j'ai relu Germinal d'Émile Zola. Très France Culture cette phrase. J'ai relu Germinal d'Émile Zola, bien sûr. Mais il se trouve que quand les ouvriers se révoltent contre le patron exploiteur dans Germinal, c'est une très grande violence, il lui coupe les testicules et en fait il lui met de la terre dans la bouche en disant « Tiens, mange, mange, toi qui nous mangeais. » Bon, là, on est dans la logique du chasseur devenu proie, c'est la même logique que Virgile. Mais dans la même scène, notre Émile Zola décrit aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec cette logique, qui sont en retrait. Je cite Émile, « Cette mutilation affreuse s'était accomplie dans une horreur glacée. Ni Étienne, ni Maheu, ni les autres n'avaient eu le temps d'intervenir. Ils restaient immobiles devant ce galop de furie. » Car le Étienne d'Émile Zola croit en la politique plus qu'en la violence. De ce côté-là, c'est l'anti-Virgile. Il pourrait jamais dire comme lui, l'écologie sans révolution, c'est du jardinage. Par contre, Virgile pourrait avoir comme meilleur poteau Les Misérables de Victor Hugo, notamment lorsqu'il prépare l'émeute de 1832, ou le combattant Chen dans La condition humaine d'André Malraux, qui tue au couteau pour renverser le gouvernement de Shanghai. Eh bien, Chen, comme Les Misérables, comme Virgile, semble dire « ôter la vie pour qu'elle devienne juste, pour une vie vivable ». Eh bien ça, on peut l'accepter. Alors, bien sûr qu'on peut en discuter aussi, hein, notamment des vertus quand même un peu pacifiantes de la justice. Bon, c'est quand même un débat philosophique. Mais cette logique que vous mettez en scène, elle est aussi possible parce que Virgile, il a un trait de caractère particulier, c'est qu'il est en colère. Et là surgit une autre question philosophique. Je la fais à la Charline, avec la réponse dans la question. Et pourquoi que la colère, ce serait forcément un sentiment négatif?
Par contre, elle ne parle pas comme Coluche. Hein, je ne sais pas pourquoi vous avez pris cette accent.
Attention, vous n'êtes toujours pas signé. Hein,
c'est vrai. Mais votre Virgile est habité d'une rage, en fait, si puissante et si profonde, qu'en fait, elle a mué en son exact contraire, qui est un calme olympien, presque doux. Ce qui fait de Virgile à quelqu'un d'un tout petit peu flippant, quand même. Mais c'est la paisible assurance, en fait, de ceux qui n'ont plus rien à perdre et dont la terrible vengeance s'exerce de façon méthodique, mais limite avec politesse. Pourquoi ? Mais parce que le sort, en fait, lui a déboîté sa définition du mot « juste ». Tout ce que j'ai le droit de faire, est-il juste ? Eh bien, ça, c'était le sujet du bac philo 2017. Donc, vous êtes en plein dedans. Autrement dit, ce qui est juste, est-il forcément légal ? Voilà en fait pour moi ce qui traverse votre livre. Virgile donne sa réponse, donc je redonne les références. Oui. Impact d'Olivier Norek, paru aux éditions Michel Lafon.
Merci Clara Dupont-Monod. Vous êtes bien accompagnée dans cette chronique, j'ai l'impression, Olivier Norek. On va aborder ce dernier thème. Un roman vendu sur quatre est un polar. Il va donc y avoir du monde sur le quai du Polar, le festival du roman noir. Enfin, j'ai mis festival parce qu'on a du mal à dire salon, un terme qui ferait plus Saint-Germain-des-Prés et littérature blanche. Pourquoi distinguer le Polar du reste de la littérature? Pourquoi n'est-il pas forcément le bienvenu dans les prix littéraires les plus prestigieux? Et en a-t-il besoin vu le succès commercial?
Celui-là, j'avais pas vraiment accroché.
Ça vous a pas plu?
Mais non, non, parce que j'avais cru que c'était un polar. Parce que sur la couverture, il y avait un type avec un pistolet. Et en fait, c'était de la poésie. Et moi, la poésie, c'est pas trop mon truc. Hein. Non, faut vous dire, Monsieur Rouche, ici, dans notre club, on ne lit que des polars.
Monsieur Rouche, pensez-vous sincèrement que l'on puisse découper un corps avec un couteau électrique?
Un corps?
Oui.
Je sais pas. Bon, je vais peut-être vous laisser.
Mais non, il faut absolument... une scie.
Un extrait du film Le Mystère Henri Pic, un film de Rémy Besançon avec Annie Mercier notamment et Fabrice Lucchini. Est-ce qu'elle a encore un sens aujourd'hui, cette distinction entre, on dit la blanche, donc la littérature, comme on dirait Clara et Juliette traditionnelle, ça fait un peu Saint-Germain-des-Prés, mais c'est comme ça.
Ça fait un peu raciste.
Et... c'est vrai.
Et le polar.
Donc on appelle ça la blanche et la noire. Est-ce que cette distinction, elle est encore... valable.
Je sais pas si elle est valable, mais ouais. Je trouve que c'est très bien. C'est très bien que d'un côté, il y ait des gens qui pensent qu'ils ont une littérature élitiste et intelligente et bien écrite. Et que de l'autre côté, il y ait des sortes de bad boys de la lité.
Ouais, ça fait mauvais genre.
Voilà,
hein.
Qui parlent mal, qui se tiennent mal. Moi, ça me...
Qui ont été flics.
C'est ça. Qui, ou autres, ou journalistes, ou des trucs comme ça.
Ça vous
c'est
fait quoi d'être noir, du coup?
Il y a cet intérêt de, l'interdit. Moi, j'aime beaucoup être dans ce côté, ouais, de la littérature noire. Je me dis de manière très, très caricaturale, mais c'est quand même un peu l'ADN de cette émission. Je me dis que...
On a été gentil avec vous jusqu'à présent.
Moi, je le prends comme un compliment.
Oui, bien sûr. On est payé
pour ça. Je sais bien, en fait. Je trouve que d'un côté assez caricatural, donc la littérature blanche est une littérature qui est un petit peu auto-centrée, qui se regarde un peu son nombril. Je vais vous raconter mon mois de juillet au Touquet et que la littérature noire s'empare des faits de société. En fait, dans le roman policier, qui est à mon sens un livre d'histoire en avance, pour ne pas se cannibaliser, parce qu'en fait il y a une grosse arnaque sur le roman policier, c'est l'histoire d'un assassin, un flic, et à la fin le flic arrête l'assassin. Au bout d'un moment, je sais même pas pourquoi on continue à acheter des romans policiers, et en fait on continue à acheter des romans policiers parce qu'en fait on est passé du polar au thriller et du thriller au roman noir. Et le roman noir, il est sociopolitique. Le roman noir, pour pas se cannibaliser, en fait, il utilise les faits du quotidien. Ce qui fait que dans les prochains bouquins, on va voir Notre-Dame en train de brûler, on va voir des flics avec des masques, on va voir des victimes qui seront de la woke génération, et ce sera très bien. Et en fin de compte, cette idée d'avoir à chaque fois le quotidien qui est revisité dans les romans nous permet d'être à chaque fois novateur et de surfer à chaque fois sur exactement ce qui se passe dans la société. Donc, de donner toujours cette envie d'y aller. Et puis le roman noir, le polar, le thriller, c'est le rendez-vous qu'on craint tous, c'est le rendez-vous avec la mort, c'est le seul rendez-vous qu'on va pas rater. Et pourtant, on a envie, comme par une sorte de gilet pare-balles, de protection, on a envie de se jouer de ce rendez-vous. Parce que si, par exemple, on le théâtralise, si on se moque de ce rendez-vous de la mort qui est dans tous les romans policiers, alors peut-être que ça va pas nous arriver. Et c'est exactement ce que font les gosses. Vous emmenez des gosses à un zoo, ils vont s'amuser 20 secondes avec les zèbres, avec les girafes, mais ils vont toujours partir vers le tigre.
Bien sûr. Vous
les emmenez dans un vivarium, ils vont jouer 3 minutes avec les fourmis, mais ils vont de toute façon aller vers la tarentule. Donc il y a ce rendez-vous qui est là, c'est ce rendez-vous qui fait peur, c'est ce rendez-vous qu'on manquera pas, et c'est ce rendez-vous avec lequel on peut jouer dans les romans policiers.
Enfourchez le tigre, lisez des polars. Merci Olivier Norek, on va vous soumettre maintenant un questionnaire de Jupy Proust avec Juliette.
Sur l'échelle du flic reconverti le plus connu, qui va de 0 à 10, 10 étant Olivier Marchal, 0 étant Jean-Michel Fauvergue, député des REP, personne ne sait qui. C'est qui ? Vous vous situez à combien ?
À peu près à 6.
Très bien. Batman semble être votre super-héros préféré. À cause de quoi ? Le costume, les gadgets ou l'argent ?
J'en suis revenu, en fait, je suis plus...
On a arrêté avec Batman.
On a arrêté avec Batman, qui est vraiment une représentation du capitalisme et de la représentation assez libérale d'une économie qui ne me convient plus. Et je suis plus vers le Fantomas, en fait, maintenant.
Un peu plus
anarcho-rebelle.
Très bien. Qu'est-ce qui est le plus flippant ? Un salon du livre ou une salle d'interrogatoire ?
Ça dépend des gens qu'on y rencontre, parce que j'ai quand même rencontré dans des salons du livre Guillaume Meurice et Charline Van den Necker et Clara Dupont-Monod, et je ne veux même pas vous dire dans quel état je les ai laissés à 1h du matin.
Non, mais c'est bon, on a une petite idée.
Avec un micro de karaoké pour Clara Dupont-Monod, je m'en souviens très très bien et j'ai même les photos.
Ok, donc c'est le salon du livre.
Très bien.
Si je n'étais pas utile, j'allais rater ma vie sans réfléchir. Ça, c'est une phrase que vous avez dite. Sans réfléchir, quel métier inutile auriez-vous pu faire?
Waouh! Je peux pas mettre à dos toute une partie.
Monsieur, courageux.
Chroniqueur sur France Inter, ça compte.
Huissier, chirurgien esthétique.
Non, ils sont tous utiles, mais aujourd'hui, par rapport, et je vais juste être de 10 secondes, par rapport aux fausses promesses qu'on donne aux générations en disant qu'on va arrêter le plastique, qu'on va arrêter les énergies fossiles, qu'on va écouter les 150 citoyens pour la convention et qu'à la fin on fait rien du tout, je pense qu'aujourd'hui, un métier qui devrait faire attention de ne pas être inutile, c'est le métier de politique. Parce qu'à force de ne pas honorer les promesses qu'on fait, on a 65% d'abstention.
Ok. Un gros cliché de la violence policière, c'était le coup d'annuaire sur la tête. Question. Maintenant, comment on fait? Google.
Ouais. Alors compliqué. Après l'annuaire, on a eu le Minitel, mais le Minitel était un peu trop lourd, hein, ouais. Donc ça a été complexe.
Bah non, ça ne va pas. Donc ça ne va pas du tout. Vous n'avez pas de soluce.
Donc maintenant, avec Google, on en est venu au fait qu'un jour, on s'est dit, en fait, peut-être que la violence n'est pas si utile que ça pendant les auditions. En tout cas, moi, j'y ai jamais eu recours.
Selon l'IGPN.
Si vous pouviez filer 48 heures une personnalité politique française, vous choisiriez qui?
Juste pour savoir ce que c'est que la vie d'un président pour de vrai, et si vraiment elle est si remplie que ça, un président.
Okay. Allez, carrément. Et on salue le Salon du Livre de Limoges qui a permis notre rencontre avec Olivier Norek. On fait des castings d'invités prolongés dans la nuit, ça arrive.
On salue Chablis alors, qui a aussi permis la rencontre.
Olivier Norek publie donc Impact chez Michel Lafon. Autant vous dire qu'on a beaucoup aimé et que le propos nous a beaucoup parlé, que pour le choc des consciences, c'est pas mal du tout. Alors, vendredi, nous vous proposons une émission en public avec toute l'équipe en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. La billetterie ouvre dans exactement 1 minute 30, wow. 18h tapante. Foncez sur le site de la Maison de la Radio. Merci à tous, à demain, nous recevrons une femme réalisatrice qui n'a pas froid aux yeux, c'est Julie Delpy.
Elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme.
Voilà.
Ouais. Un dérapage.